Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 20h sur Transistor, nous sommes le jeudi 26 mars et c'est le grand retour du journal radiophonique Amplifié. Malgré la pandémie et le confinement, nous nous retrouvons pour décrypter avec vous toute l'actu mixée, égalisée, montée et bien sûr tout autant dématérialisée qu'amplifiée. Ce soir au programme, on discutera forcément du coronavirus, mais aussi un peu d'autres choses. Il y aura du sport, de la musique, de la culture. Et c'est toute l'équipe qui est au rendez-vous pour retrouver toute l'actualité avec vous sur Transistor. Votre rendez-vous habituel n'est pas perturbé, ou en tout cas, il s'adapte. Et on passe tout de suite à l'international et au journal avec Marie.
Sanitaire, voilà ce qui résumerait le mieux la situation au Kosovo actuellement. Le gouvernement de coalition kosovare, à la tête du pays depuis 2 mois, vient d'être renversé par un vote de défiance. La motion de censure avait été présentée par un parti minoritaire dans la coalition gouvernementale. Le premier ministre, Albin Kurti, a accusé le président Hashim Thaçi, un des fondateurs de la branche politique de l'armée de libération du Kosovo, d'avoir organisé le vote afin de finaliser un projet d'échange de territoire avec la Serbie, sous accord américain. Le pays, rongé par la corruption et les inégalités, se retrouve donc sans aucun gouvernement pour gérer la crise du Covid-19. Les services de santé manquent cruellement de ressources, les gens tapent sur des casseroles à leur balcon pour protester contre la crise politique, et devant le Parlement, une banderole a été déployée. La pandémie la plus dangereuse pour le Kosovo, c'est la politique.
Merci Marie pour ce petit point au Kosovo. Et si on parle de coronavirus à l'international, on parle aussi d'insectes, on parle de chauves-souris, de moustiques et de tiques. Dans un article du Monde diplomatique, Sonia Cha pose la fameuse question. D'où vient le coronavirus? Pour le coronavirus, comme pour d'autres épidémies telles qu'Ebola, Zika ou la maladie de Lyme, il est facile de pointer du doigt ces animaux comme responsables de la transmission des virus aux humains. Et pourtant, cet article rappelle, article scientifique à l'appui, que si les virus se propagent facilement et nous atteignent avec une telle densité, c'est principalement provoqué par la destruction des habitats naturels de ces animaux. La déforestation, l'urbanisation et l'industrialisation effrénées offrent aux microbes pathogènes la possibilité d'atteindre les corps humains et de s'y adapter. La journaliste montre que 60% des virus qui nous touchent sont d'origine animale. Depuis 1940, des centaines de microbes pathogènes ont apparu dans des régions où jamais ils n'avaient été observés auparavant. C'est le cas du VIH, d'Ebola en Afrique occidentale ou de Zika sur le continent américain. S'agissant d'Ebola, par exemple, une étude réalisée en 2017 met en relief que ces apparitions sont les plus importantes dans les zones d'Afrique centrale et occidentale qui ont été récemment déforestées. En effet, avec la déforestation, les chauves-souris sont obligées de quitter leur habitat naturel pour s'abriter dans les arbres, des jardins ou dans les granges humaines. Le programme américain PREDICT, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, a identifié plus de 900 nouveaux virus liés à l'extension de l'empreinte humaine sur la planète. Virus parmi lesquels, devinez quoi, on trouve des souches, jusque-là inconnues, de coronavirus comparables à celles du SRAS. Et dire qu'en octobre dernier, on apprenait que le gouvernement des États-Unis décidait de fermer le programme PREDICT. Peut-être que la pandémie mondiale leur fera changer d'avis. Et tout de suite, on passe au national avec Arthur.
Oui, je vais vous parler de la continuité pédagogique. C'est le nom qu'on a donné à l'improvisation permanente pour essayer de faire en sorte que des milliers et des milliers d'élèves continuent à avoir cours et que l'école continue à fonctionner pendant les 2, 3, 4, voire même 6 semaines où nous serons en confinement. Alors, il y a des cours à distance, il y a des devoirs envoyés, il y a les chaînes de télé publiques s'y sont mises aussi, puisque France Info diffuse régulièrement différents programmes adaptés à un certain type pour le collège, pour l'école primaire ou pour le lycée. Il y a de nombreux problèmes qui ont parfois des solutions. C'est aussi un dispositif qui révèle des inégalités profondes entre ceux qui n'ont pas d'ordinateur personnel, entre ceux qui ne savent pas s'en servir, entre ceux qui n'ont pas les parents pour pouvoir les encadrer, entre ceux qui doivent aider les parents à s'occuper des petits frères et petites sœurs. Donc à ces difficultés s'ajoute aussi la fatigue des professeurs qui ne savent pas forcément et qui doivent faire 2 fois plus pour que les élèves puissent continuer Une fatigue qui commence à s'accentuer face au mépris que montre le gouvernement, soit en ne promettant rien en ce qui concerne la solidité des serveurs, ou soit comme le Cybet NDI qui décide alors de sortir des petites phrases méprisantes qui associées à des à personnes qui actuellement se battent pour essayer de garder un semblant de cohésion sociale dans notre pays.
Et dans notre journal, Martin, tu nous parles des anti-journaux.
Oui, le confinement déchaîne les énergies créatives. Nos murs, nos fils d'actualité sont inondés ces jours-ci de créations personnelles, et en particulier de journaux de confinement. De Wajim Wawad à Leïla Slimani ou Marie Dariussec, nombreux et nombreuses sont les auteurs et autrices, stars en tout genre, à céder à la tentation de s'exposer ainsi sur les réseaux. Seulement, elles ne sont pas les seules ni à subir le confinement, ni à chercher un moyen de s'occuper. Et à côté de leurs journaux bien propres, qui procèdent à une irrésistible esthétisation du confinement, émergent également ces anti-journaux de confinement. Et c'est la colère qui monte un peu partout. Je ne vous écris pas de ma résidence secondaire où nous aurions fui. Nous ne nous cachons pas notre voiture avec une plaque 75. Nous ne vivons pas un conte de fées. Je vous écris de chez moi, résidence que je n'ai pas quittée depuis maintenant une semaine, refusant de sortir, entre la peur d'être malade et la colère que je ressens contre l'ensemble du monde. Je voudrais éviter d'exploser dans un rayon de Franprix, sur le blog de Madame Sourire, l'impensable honte. Parce que le confinement, c'est aussi la mise en avant des inégalités. Derrière l'Union nationale, derrière cette solidarité que l'on nous exhorte à tenir, il y a tous ceux et toutes celles qui ressentent, pas pour la première fois, la colère de se voir réserver un traitement spécial pendant la crise sanitaire. Le traitement spécial réservé aux pauvres, si à en croire les médias, la norme est de se réfugier dans sa résidence secondaire à la campagne. Toutes les guerres, toutes les famines et les crises mondiales ont apparemment été réglées. Cet extrait de caricature semble tomber juste. Seulement, devant la réalité d'un confinement dans 20 mètres carrés, amende à la clé si jamais l'on ose sortir, le gouvernement passant son temps à souligner la stupidité ou l'irresponsabilité des gens qui sortent, ces apparences risquent de ne pas tenir très longtemps.
Et derrière l'unité nationale, il y a aussi l'état d'urgence sanitaire.
Oui, l'état d'urgence sanitaire est un dispositif juridique d'exception qui permet au gouvernement de prendre certaines lois sans se faire embêter par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ou le Parlement. Bien sûr, c'est selon eux pour le bien national et on pourrait le croire comme le lancement de l'opération militaire Résilience pour pouvoir mobiliser l'armée, pour pouvoir bouger des populations entières, pour les emmener dans des hôpitaux à l'autre bout du pays. On parle aussi, c'est aussi pour que certaines dépenses rentrent dans une qualification budgétaire spéciale qui empêche de faire gonfler le déficit. Et bien sûr, cela donne plus de pouvoir à la police et à la gendarmerie. Et c'est pour pouvoir nous foutre des contraventions lorsque l'on commence à sortir. Mais bien sûr, le problème de cet état d'urgence sanitaire, qui est censé en fait mobiliser un appareil d'État tout entier, c'est les signaux contradictoires qu'il y a avec la parole d'État. La parole d'État qui dit que le BTP peut continuer de construire, qui dit qu'on peut faire un petit jogging. Le seul problème, c'est que cet état d'urgence sanitaire va devenir la norme pour les prochaines semaines. Le seul vrai problème est la question de sa perception. Le pouvoir qui est actuellement en place doit justifier et doit être en cohérence avec les mesures qu'il applique.
Et Marie nous parle tout de suite de la situation des SDF face au coronavirus.
Il y aurait au moins 150 000 personnes sans domicile fixe en France selon les chiffres de l'INSEE, soit 150 000 personnes extrêmement vulnérables face au virus. Partout dans l'Hexagone, des lieux ouvrent pour accueillir ces personnes. Palais des festivals à Cannes, camping à La Rochelle, centre de vacances à Toulouse. Mais dans les faits, la situation est difficilement tenable. Plus d'un vendu pour se nourrir, aucune protection contre le virus, ni de quoi se laver les mains ou désinfecter ses affaires, des centres d'accueil et des maraudes qui ferment. Quant aux personnes qui vivent en bidonville, elles sont 80% à ne pas avoir accès à l'eau. Le gouvernement, face à cette situation, a annoncé prolonger la trêve hivernale de 2 mois, Macron a inauguré un nouveau centre d'hébergement et 2000 places d'hébergement supplémentaires devraient être débloquées. Les hôteliers sont aussi mobilisés, mais le confinement dans tous les cas reste difficile. On envisage ainsi la création de centres de desserrement afin d'isoler les personnes sans domicile fixe infectées, mais dont l'état ne nécessiterait pas une hospitalisation. Si vous voulez aider, sachez que les Restos du Cœur, le Secours Populaire ou le SAMU Social de Paris ont lancé de nombreux appels aux dons et les initiatives locales sont très nombreuses. À écouter aussi le reportage des Pieds sur Terre, conseillé par Rémi et disponible sur France Culture.
Et il n'y a pas que le coronavirus dans l'actualité.
Papa Groove est mort. Manny Bongo, le saxophoniste camerounais, est décédé à l'âge de 86 ans, après avoir attrapé, lui aussi, le coronavirus. Si vous ne le connaissez pas, pour sa contribution à la bande-son de Kirikou et les Bêtes Sauvages, je vous laisse avec ce morceau, Oko, de 1979.
C'est tout pour l'actualité. On passe tout de suite au billet d'ailleurs avec Marie.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit.
C'est fasciste et réactionnaire.
C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés. Il sera
billet d'ailleurs qui ne va pas tarder à arriver.
On en a peu parlé, mais ce week-end ont eu lieu des élections qui, comme le virus, ont pu être mortelles. Je vous emmène aujourd'hui en Guinée, où les habitants étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés et pour s'exprimer par référendum sur la réforme constitutionnelle souhaitée par le président Alpha Condé. Acte 1, la contestation. Ces élections sont en fait un double scrutin. Élections législatives d'une part et référendum sur le projet de réforme constitutionnelle souhaité par le président de l'autre. Mais l'opposition pointe 2 problèmes. D'abord, l'adoption d'une nouvelle constitution permettrait au président très contesté de briguer un 3e mandat, ce à quoi s'oppose violemment la population. Et ensuite, les conditions dans lesquelles se tiendront les élections n'ont rien de démocratique. Des experts de la CDAO ont d'ailleurs constaté que 1/3 des personnes inscrites sur le fichier électoral n'auraient pas dû s'y trouver. On a même constaté des doublons et la présence de défunts sur la liste. Acte 2, le président guinéen se sert du coronavirus à son avantage. Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010, a en effet profité du coronavirus pour annuler une visite de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Une visite qui aurait dû permettre aux chefs d'État du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria de dissuader la tenue d'élections. Les partis d'opposition ont immédiatement dénoncé un coup d'état constitutionnel d'Alpha Condé et appelé au boycott de ce qu'ils qualifient, je cite, de grande mascarade électorale. Acte 3, les violences éclatent. Le scrutin s'est donc bien tenu dimanche et alors que le pays annonçait la fermeture de ses frontières face au Covid-19. Le résultat a été des violences meurtrières. Des bureaux de vote ont été attaqués, du matériel électoral saccagé, les grenades lacrymogènes ont fusé et plusieurs personnes ont été tuées par les forces de l'ordre. Quant au résultat, il demeure pour l'instant inconnu. Acte 4, les tensions qui continuent. Les tensions en Guinée sont donc loin d'être apaisées et plusieurs camps risquent de s'affronter. Le camp du président d'abord, qui continue à défendre la modernité de sa nouvelle constitution, qui interdirait entre autres l'excision et le mariage des mineurs, et qui codifierait l'égalité des sexes. Dans l'autre camp, les opposants à la réforme constitutionnelle ont constitué le Front National pour la Défense de la Constitution et s'opposent activement au gouvernement. Et puis, nul doute que les acteurs internationaux vont chercher à se mêler à l'affaire. La Russie d'abord a des intérêts importants en Guinée où s'est implanté Russal, le géant russe de l'aluminium. Elle a cherché à tempérer la situation en déclarant que les constitutions n'étaient de toute manière pas des dogmes immuables. On se demande pourquoi. La France ensuite est elle aussi présente en Guinée. C'est d'ailleurs Aéroport de Paris qui gère l'aéroport de Conakry et les milieux d'affaires français comptent bien profiter des abondantes ressources naturelles du pays comme la bauxite et le fer. Pour l'instant, l'ONU et les États-Unis ont condamné les violences et la France a estimé l'élection non crédible. L'affaire reste à suivre.
Merci Marie, il est 20h16 sur Transistor. Vous écoutez toujours le journal radiophonique amplifié et c'était Le Billet d'ailleurs.
Jusqu'à 21h, toute l'actualité mixée, égalisée, montée, enregistrée, captée, compressée,
diffusée,
mixée, égalisée, enregistrée, amplifiée.
Sur Transistor.
Et tout de suite, on passe à la revue de presse avec toi, Nicolas.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et on commence aujourd'hui avec un journal de confinement. Jour 2. Bernard et nos deux enfants, Glycine et Citronelle, dorment encore du sommeil des braves. Seul dans ma cuisine, désemparée depuis que notre chère gouvernante Fatou m'a annoncé qu'elle devait rester auprès de son mari et de leurs 5 enfants dans leur HLM, je prépare moi-même un jus d'orange sanguine pressé en regardant les cils et les clématites fleurir sous notre tonnelle au fond du jardin. Je me sens petite guerrière, prête à affronter cette grande épreuve que nous a lancée l'univers. Mes valises attendent dans le hall d'entrée. Partir. Se réinventer. Nouvelle existence, certainement. Vaincre la peur, toujours. La vie gagnera, assurément. Nous ferons encore des parties de Cluedo. Oui, le colonel Moutarde sera encore l'assassin dans la bibliothèque avec le chandelier. Je souris. La vie gagnera. Et oui, pour commencer cette faste chronique, une de mes grandes trouvailles littéraires, le journal de Pépette Andrieux. Quoi ? Vous la connaissez pas ? Bon, vous aurez compris, c'est en fait une parodie, mais on s'y croirait presque. Mais merci à Christophe Bourdon du site culture de la RTBF d'avoir mis du sien pour écrire cette merveille, produite, je cite, en réponse au témoignage bouleversant de Leïla Slimani et Marie Dariussec. Mais Martin vous en a déjà parlé. Bref. Si les écrivains sont en ce moment particulièrement requis par le moment présent, c'est aussi qu'ils ont un rapport essentiel avec cette, entre guillemets, traversée des catastrophes que peut être la vie confinée, écrit Jean Bienbaum en ouverture du dernier Monde des livres. Mais bon, pour Politis, il serait cruel de ne pas les distinguer, tant de ne pas distinguer nos deux autrices, tant leurs textes atteignent des sommets d'affliction, trahissent ici non seulement la classe d'où elles parlent, aisée, dominante, mais surtout la faible relation, euphémisme, qu'elles entretiennent avec la matérialité des choses, l'irréductibilité des contraintes ou le poids des déterminismes sociaux.
Et justement, la presse a probablement relayé des témoignages d'auteurs plus intéressants, non ?
Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on n'a pas besoin de sortir du cercle des écrivains et écrivaines stars pour s'éloigner du niveau de Marie Dariussec et Leïla Slimani. Daniel Pénac, par exemple, file sur le site web de France Inter la métaphore de la prison, ou du moins l'expérience de la prison à laquelle le confinement peut, dans une certaine mesure, être assimilé. Pénac se remémore donc ces gens qui ont été sauvés par la lecture dans des situations de claustration absolue. Souvenez-vous, dit-il, quand Jean Kaufmann est resté des mois otage au Liban, il est resté des mois prisonnier et ce qui a vraiment sauvé son esprit, c'est sa relecture du second volume de La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Mais pensons aussi, ajoute-t-il, à l'écrivain chinois Dai Sijie qui s'est sauvé de son camp d'internement par la lecture d'Honoré de Balzac. Antonio Gramsci, ajoute-t-il, a aussi été sauvé des prisons mussoliniennes dans lesquelles il est resté des années durant et qui s'est sauvé en relisant et critiquant dans ses carnets un siècle d'écrits émanant de l'idéalisme aussi bien que du matérialisme historique. De l'autre côté des Alpes, Paolo Giordano, docteur en physique théorique et écrivain mondialement lu, d'œuvres comme notamment La solitude des nombres premiers jusqu'à Dévorer le ciel l'an dernier, sort en plein confinement l'essai Contagion, qui devait paraître en avril, mais les éditions du Seuil l'ont publié en ligne sur ce mardi 24 mars et en accès libre, considérant, je cite, ce livre comme une intervention d'utilité publique. Giordano, dans l'essai, mêle plusieurs registres face à la crise, le personnel et l'autobiographique. Bien avant l'écriture, dit-il, les mathématiques m'ont permis de réfréner l'angoisse. Il cherchait une formule concise, un slogan à mémoriser, et il le trouva dans un article de Science, datant de 1972. « More is different », plus est différent. Un mathématicien l'écrit à propos des électrons et des molécules, mais il parlait aussi de nous. L'effet cumulatif de nos actions singulières sur la collectivité est différent de la somme des effets singuliers. Si nous sommes nombreux, chacun de nos comportements a des conséquences globales abstraites et difficiles à concevoir. Et la communauté dans la contagion, c'est la totalité des êtres humains.
Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de maths et de matheux, j'en connais un qui n'aime pas trop ça en ce moment.
Ah, ce brave Didier. Oui, je parle bien du sulfuro professeur Raoult, qui quand même, plus tôt dans la journée, a bénéficié d'une énorme tribune sur Le Monde pour adéquatement nous offrir un lot d'énormités assez peu égalées dans la communauté scientifique. Je cite, Husserl le disait, les modèles mathématiques ne sont que les vêtements des idées, c'est-à-dire que l'on utilise la méthode en réalité pour imposer un point de vue qui a été développé progressivement par l'industrie pharmaceutique pour mettre en évidence des médicaments qui ne changent pas globalement l'avenir des patients. Et ce modèle, qui a nourri une quantité de méthodologistes, est devenu une dictature morale, dit-il. Mais le médecin peut et doit réfléchir comme un médecin et non pas comme un méthodologiste. Bon, déjà, il aurait été intéressant de citer Husserl, mais en entier. Husserl donc précise que les modèles scientifiques sont en fait des vêtements d'idées qui recouvrent la vie, et non les vêtements des idées. Par vêtements, je cite, des vêtements taillés dans l'infinité ouverte des expériences possibles et qui va bien cette vie. On parle donc bien ici par la métaphore de ces maillages intellectuels de paradigmes interprétatifs. Et même plus largement, n'oublions pas que Husserl lui-même était mathématicien et Raoult développe une rhétorique dangereuse puisqu'il développe en disant qu'il ne croit ni à l'épidémiologie ni à la médecine factuelle, donc en gros aux statistiques, quel que soit le contexte. Histoire de justifier le honteux pari, la roulette russe qui est son protocole scientifique. Et à l'heure où Raoult a publié aujourd'hui même un livre de vulgarisation sur les virus en version numérique et que l'hydroxychloroquine vient juste d'être autorisée en prescription aux malades de la Covid, et même si la molécule marche finalement, il faut bien se rendre compte que son efficacité n'est pas du tout encore prouvée et que nous serons des milliers de cobayes à faire les frais de ce choix.
Mais Nicolas, d'habitude, tu faisais la fin de tes chroniques avec un petit voyage culinaire?
Oui, c'est vrai, mais je me suis un peu perdu. J'ai tapé sur Google « recette confine » et je suis tombé sur une recette de confinade de tomates. Terme qui a l'air d'être la synthèse parfaite entre confinement et panade. 250 g de tomates séchées, 2 gousses d'ail, 80 g d'huile d'olive, de l'origan, de l'eau. Allez, je vais vite parce qu'il faut que je finisse la chronique. Il faut juste faire tremper les tomates séchées 12 heures, récupérer un verre d'eau, égoutter les tomates, mixer ça avec l'huile et l'ail, ajouter le trempage, la préparation est très épaisse, il faut ajouter l'origan, mettre dans un pot en tassant, garder au frais, ça peut être conservé un petit moment, c'est donc parfait pour les prochaines semaines. Et d'ailleurs, notre tambouille est excellente en apéritif avec des tartines ou des graissins, tout comme les discours de Macron.
Merci beaucoup Nicolas, c'était la revue de presse, il est 20h24 sur Transistor. Et on va tout de suite passer au billet politique.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Arthur, tu vas nous parler de quoi ce soir ?
Eh bien, je vais vous parler du discours de Macron et je vais vous parler de la place du collectif dans ce discours. Surtout que tu sais dans quoi nous sommes, Mathilde.
En tout cas, on est en quarantaine.
Non mais t'as pas écouté Macron ? Nous sommes en guerre !
Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.
Et oui, nous sommes en guerre, a dit Macron. Ce serait la phrase qui servirait à justifier toutes les mesures, tous les pardons que l'on devrait lui faire. Et bien sûr, cela justifierait le changement d'attitude de Macron par rapport au collectif, aux dépenses publiques, au nom de la lutte contre le coronavirus. Mais bien sûr, on est appris, on est méfiant. Parce que vu la relation toxique et abusive qu'entretient le pouvoir macroniste avec les mots, il faut un peu se demander, un peu comme sur le cuirassé Potemkin, que lorsqu'il nous tend de la viande, est-ce qu'elle est remplie de verre ou non ? Parce que il y a un contexte. Nous sommes censés être en démocratie, le pouvoir vient du peuple. Et il y a certaines manières en démocratie de penser le collectif, parce que la démocratie, c'est quand même l'action du collectif sur lui-même. Nous sommes par la souveraineté populaire. Le seul truc, c'est que une économie de guerre, c'est aussi être l'agent d'une politique particulière. Il faut aussi réagir sur soi-même, mais pour se mobiliser dans un but commun. Il s'agit ici de se mobiliser pour rester chez soi, pour s'imposer des mesures barrières, voire s'imposer à soi-même une solidarité avec le reste de la communauté. On se mobilise, certes, mais pour une juste cause. Après, on en a fait du chemin, parce que là, cette fois, on ne va pas aller justement crever la bouche ouverte sur un champ de bataille, on va justement s'enfermer et s'emmerder chez soi. Rester chez vous sonne mieux alors qu'engagez-vous comme nouveau slogan de cette politique.
Et c'est plutôt positif, non, pour une fois qu'ils font quelque chose de bien ?
Oui, mais comme j'ai dit, il y a un contexte. Déjà, il y a deux types de solidarité dans notre vie de tous les jours. Un, la solidarité démocratique, c'est-à-dire que je paye ta retraite, Mathilde, et par mes impôts. Nous sommes liés aussi par le vote, les décisions d'autrui ont un impact sur d'autres. Mais il y a aussi une autre forme d'interdépendance, à savoir le capitalisme, notre mode de consommation et de production. Et on aspire tous et toutes dans ces deux régimes collectifs à vivre notre vie. Sauf que lorsqu'il s'agit de faire la guerre, ici, contre un virus, de quel collectif parle-t-on ? Quel collectif va agir ? Est-ce que c'est le collectif politique ? Est-ce que c'est le peuple en tant que majorité générale qui cherche à légitimer une politique ? Ou est-ce que c'est le peuple comme majorité sociale qui ressent les difficultés de l'économie ? Eh bien non, c'est encore un autre peuple. C'est une sorte de peuple de tous les jours, notre collectif inconscient, notre manière de se croiser, que ça soit aussi bien pour des liens qu'on a choisis comme des liens qu'on nous a imposés. Et là, on nous demande de conscientiser tous ces liens, d'en éviter certains ou d'en changer d'autres. Et on découvre alors une nouvelle forme d'interdépendance. Et si on ne peut pas reproduire notre triste mélodie quotidienne, c'est qu'un des supports même, en fait, de tout notre quotidien vient d'être touché. Parce que si on retombe sur des sphères qu'a défini Karl Polanyi, il existe des sphères que l'économie n'arrive pas à marchandiser, ou soit doit le faire sous un prix immense. Et ici, c'est la sphère qu'on pourrait appeler du travail, mais en fait, la sphère du travail, c'est-à-dire notre reproduction physique même. C'est ce qu'on appelle une sphère conditionnante. Et la santé du corps social, dans le cas du Covid-19, c'est la reproduction naturelle, c'est le soin apporté à l'armée de l'ombre de tous les jours, si j'ai une mauvaise citation, et qui permet d'aller au travail. Cette sphère est d'une nature collective, d'autant plus importante, voire même plus importante que notre assignation sociale politique, le fait d'être citoyen, ou économique, notre travail. Et pour la défendre consciemment, pour un pouvoir politique, il faut mobiliser le nom de la guerre. On pourrait dire, bah très bien, on est comme dans la biopolitique de Foucault, c'est le pouvoir sur la vie. Non. Parce que là, il s'agit en fait de contrer une menace externe contre un corps social. Le seul problème, c'est que ça n'est pas tout. Eh bien, ce n'est pas tout, parce que c'est la seule excuse pour ceux qui ont méprisé cette sphère collective en permanence et qui ne tirent alors leur légitimité que d'une majorité de patates au moment d'une élection. La guerre sert à unir le collectif au nom de leurs conditions et de leur vie même, et à le relier à l'autorité collective, ici l'État, la nation, le marché, parce que si la sphère conditionnante s'effondre, le parasite qui est avec s'effondre de lui-même aussi.
Merci beaucoup Arthur pour ce petit point. Il est 20h30, l'heure de passer au biais économique avec Mathéo. On va parler de la relation entre coronavirus et libéralisme.
Money, 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 must be funny. bonsoir Mathilde, bonsoir à toutes et tous. Alors que l'on apprend que Nathalie Horler, inoubliable chanteuse de Cascada, est positive au Covid-19 et que l'on doute des préconisations de sa chanson « Every Time We Touch », il me semble plus pertinent de se pencher un instant sur les conséquences économiques de la pandémie qui frappe actuellement le monde. Alors que les États d'Europe et les États de l'Ouest s'empressent actuellement de mettre sur pied des plans de relance de l'économie, ou devrais-je plutôt dire des plans de sauvetage, plans dont l'ampleur est absolument inédite dans l'histoire. Le Congrès américain s'apprête à voter dans les jours à venir un plan de plus de 2000 milliards de dollars d'aide directe aux ménages et aux entreprises. Le gouvernement allemand, habituellement anti-dette, met quant à lui 500 milliards d'euros sur la table et 300 milliards d'euros sont prévus cette fois-ci du côté français, le tout étant exclusivement financé par la dette. Tout cela naturellement interroge parce que ces plans de relance sont hors du commun. Qui paiera? D'où sort cet argent? Quels sont les risques encourus par de tels plans de sauvetage conjoncturels? La source de cette manne formidable d'argent public sont les banques centrales qui peu à peu comprennent que ce ne sont plus des facilités de crédit que les entreprises désirent, mais bien du cash, des liquidités, de quoi payer les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires, mais surtout les salaires, parce que c'est là que le risque se situe. Payer les salariés à tout prix, whatever it takes, quoi qu'il en coûte, ne pas oublier le corps salarial pour éviter de revivre les conséquences sociales, presque sanitaires, humaines, de la crise de 2008. Les conséquences, ce sont des millions de personnes plongées dans le chômage et la précarité, expulsées de leur domicile, contraintes à la flexibilisation, à l'exode, et sans parler des 10 années de récession ou d'austérité, de réduction des dépenses publiques, de coupes budgétaires, aux conséquences qui peuvent parfois s'avérer très graves. Le risque est de passer à côté de l'opportunité que nous offre cette grave crise mondiale de questionner le monde dans lequel nous vivons. Si humblement je pense que nos leaders politiques et économiques ne sont pas à deux doigts d'enterrer le capitalisme, il est peut-être temps maintenant de le remettre en question dans sa forme actuelle. En effet, ci et là, les plans de sauvetage, notamment aux États-Unis et au Canada, se tournent vers les industries d'extraction minière, vers les industries lourdes, que les investissements sont en baisse pour la première fois depuis 1980 dans le secteur de l'éolien et du solaire. En France, cette fois-ci, 80% des mesures fiscales adoptées en urgence par le gouvernement, 80% se concentrent sur les seules entreprises, alors que parmi toutes ces mesures fiscales, seuls 8% sont à destination des ménages et seulement 4% sont à destination de la santé. La question est légitime, la solution est-elle bien là ? Sans nul doute, les pays développés, parce que leurs institutions économiques sont crédibles, se sortiront de cette crise. Ce choc exogène monumental sur notre économie sera derrière nous dans quelques mois et l'économie pourra repartir, avec une dette plus élevée certes, mais repartira quand même. Mais est-il souhaitable que nous repartions sur les mêmes bases ? N'est-ce pas le moment de redéfinir ce que nous souhaitons vraiment pour notre futur et que nous balisions comment l'économie peut nous le procurer? Des économistes de tous bords, de tous courants, ont proposé une myriade de solutions tant face à la crise que nous traversons que pour gérer l'après-crise. Par exemple, achever l'idée de la mutualisation des dettes entre les pays européens pour sauver les États les plus fragiles comme l'Italie ou l'Espagne et éviter à nouveau le drame grec de 2009. Ou encore profiter des aides actuellement proposées aux entreprises, ces fameux 80% de mesures fiscales, cette masse incroyable de liquidités mises à disposition pour accélérer leur transition vers un mode de production plus respectueux de l'environnement et des travailleurs-travailleuses, ou encore réduire le champ de la globalisation commerciale pour se recentrer sur les produits locaux à la fois nationaux et ceux de nos voisins afin de limiter d'une part les transports à travers le globe, mais surtout de limiter les interdépendances entre les pays, véritable canal de transmission des chocs économiques comme ceux que nous traversons aujourd'hui. Et enfin, repartir avec des infrastructures, notamment de santé et d'éducation, à la hauteur des défis qui nous attendent, et surtout à la hauteur des standards de dignité humaine, dont les témoignages des personnels hospitaliers à travers l'Europe montrent qu'ils ont été oubliés. Si la guerre, selon les termes présidentiels, que nous livrons au virus, s'achèvera par notre probable victoire, il ne faut pas oublier quelles seront les conséquences de la paix. ne pas faire des habitants et habitantes de la planète les doubles victimes de la pandémie et du libéralisme, mais remettre au cœur des priorités l'accès à l'éducation, aux soins et à la sécurité pour que non seulement nous sortions de cette guerre victorieux, mais que nous en sortions grandis.
Merci pour ce point écho, Mathéo. Et il est 20h36 sur Transistor. Clément va nous faire un petit point sur la situation en Italie.
Oui, en effet, Mathilde, et c'est vrai que c'est pas facile de parler d'autre chose pour une chronique italienne que de l'épidémie de coronavirus. Le dernier bilan est toujours lourd et laisse plus de place que jamais aux inquiétudes, puisqu'avec ce soir plus de 8000 morts dans la péninsule, la situation ne s'améliore pas. Deux provinces de Lombardie, la région industrielle du nord du pays, sont particulièrement touchées, les provinces de Bergame et de Brescia.
Et pourquoi ces régions, Clément ? Est-ce qu'il y a des hypothèses ?
Oui, alors il y a un article en ligne qui donne la parole au secrétaire local du Parti de la Refondation communiste à Bergame, qui, dans une interview, met en lien l'organisation économique de la région et le développement de l'épidémie. Il souligne, et c'est assez édifiant, que Bergame est une des extrémités des routes de la soie moderne et entretient des liens commerciaux très forts avec la Chine et la province du Hubei, d'où est partie l'épidémie à la fin de l'année dernière. De nombreuses entreprises textiles ont ainsi, selon l'homme politique, délocalisé leur production en Asie, instaurant des échanges de savoir-faire, des échanges d'employés, de cadres qui perdurent encore avec des allers-retours incessants entre la Chine et l'Italie. Et pour lui, ce sont ces voyages facilités par l'installation d'un terminal aéroportuaire low cost à Bergame qui auraient permis l'introduction du coronavirus dès la fin du mois de janvier dans le nord de l'Italie. Il dénonce le fait, déjà soulevé dans des enquêtes, que des entreprises italiennes continuaient à envoyer leur personnel en Chine au plus fort de l'épidémie au début du mois de février. Il dénonce les liens de la politique locale avec ces entreprises qui ont conduit à minimiser la gravité de la situation à la fin du mois de février et même à enlever certaines communes de la première zone rouge qui avait été créée pour endiguer la diffusion du virus. Il dénonce l'irresponsabilité de ces mêmes responsables politiques qui, alors que les personnes âgées mouraient déjà en grappe fin février, encourageaient encore à sortir, à aller au restaurant, à faire du shopping. Et il souligne finalement les liens forts entre les villes voisines, avec les villes voisines de Brescia et Crémone, qui ont par la suite et sont toujours très touchées par l'épidémie depuis début mars.
Et qu'en est-il aujourd'hui ?
Eh bien, si l'Italie a été mise à l'arrêt, de nombreuses entreprises ont continué à fonctionner et ça a entraîné une réaction très forte des ouvriers, des employés, avec beaucoup de grèves spontanées. Depuis cette semaine, la situation change parce que le gouvernement, le week-end dernier, avait annoncé un décret qui fermait toutes les activités non essentielles. Et sous pression du patronat, il a revu la liste des secteurs qui devaient fermer à la baisse, ce qui a entraîné la colère des syndicats. Et donc, par exemple, hier, dans la province de Brescia, il y avait presque 80% des métallos en grève. C'est quand même une réaction assez forte que même des journaux pas franchement acquis à la cause doivent reconnaître. Pour le reste, même si la mondialisation est bien décriée comme propagatrice de l'épidémie, des journaux se font l'écho de d'autres sources de propagation. La République a dressé un article la semaine dernière assez effarant sur le rôle présumé du 8e de finale de la Ligue des Champions Bergame-Valence comme détonateur de l'épidémie. Rien n'est prouvé, bien sûr, mais la presse italienne, et c'est légitime, cherche des hypothèses tout en sachant que la première transmission, à l'absence de patient zéro qui a vraiment été trouvé, remonte peut-être à plus tôt qu'on ne le croit, en janvier, voire peut-être à la fin de l'année dernière. Puis, il y a eu des moments heureux, le soleil annonçant l'arrivée du printemps, les sorties à l'extérieur, des matchs de foot, qui malheureusement ont peut-être eu des conséquences dramatiques dans le premier pays d'Europe touché par l'épidémie.
C'est toujours le journal radiophonique amplifié sur Transistor, fer de lance d'un néo-gauchisme que je m'applique à détruire tous les jours sur Transistor jusqu'à 21h.
Merci beaucoup Clément pour ce petit point sur l'Italie. Il est 20h40 et avec Rémi, pour une fois, qui va nous faire l'édito scientifique, on va essayer de comprendre la modélisation mathématique des épidémies, ce qui est fort utile en ces temps de pandémie.
N'est-ce pas Mathilde, bonsoir. air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Par les temps qui courent, difficile de ne pas parler de l'épidémie de coronavirus, en effet, surtout pour un biais scientifique, avec aujourd'hui une question simple: comment la science peut-elle nous aider à mieux comprendre et à mieux faire face à une telle épidémie?
Et justement, j'ai cru entendre que certains chercheurs rockstars étaient en train de tester un remède miracle.
Alors certes, il y a les médicaments, et également les vaccins d'ailleurs, sur lesquels la recherche médicale est mobilisée. Mais pour cela, laissons peut-être le temps et la rigueur scientifique faire leur travail. En attendant, la meilleure façon de lutter contre l'épidémie est peut-être d'essayer de la décrire et de la comprendre. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui, Mathilde, du travail des épidémiologistes qui essaient de modéliser l'épidémie pour fournir des instruments d'aide à la décision au pouvoir politique.
Ça a l'air fort pratique. Et alors, comment est-ce qu'on modélise une épidémie? Explique-nous.
Eh bien, les premiers modèles développés dans les années 20 après la grippe espagnole sont des modèles dits compartimentaux. Puisqu'en effet, on divise la population alors en trois compartiments dans le modèle simplifié que je vais présenter. Le compartiment S, des personnes dites susceptibles, ça c'est les personnes qui n'ont pas été infectées. Le compartiment I, des personnes qui sont infectées. Et puis enfin, le compartiment R, des personnes qui ne le sont plus, qui sont donc les personnes résistantes, dans lesquelles on comptabilise aussi les personnes qui sont mortes. Quand tu es dans un compartiment, tu as une certaine probabilité de passer dans le compartiment suivant, et on cherche à connaître l'évolution globale de la taille des différents compartiments dans le temps. Alors, si la population étudiée est grande, on assiste à un phénomène de loi des grands nombres, c'est-à-dire que si chaque personne a une chance sur 10 d'être infectée dans un laps de temps, ben alors une fois ce temps écoulé, en gros, un dixième de la population sera infectée. Les mathématiciens formulent tout ça avec des équations qu'on n'a plus qu'à résoudre pour alors modéliser l'épidémie.
Et c'est là qu'intervient le nombre R0 dont la presse parle beaucoup?
Tout à fait, vous avez peut-être entendu parler de ce R0, c'est l'un des paramètres de l'équation, qu'on appelle plus pompeusement le taux de reproduction de base. Et c'est assez simple en fait. R0, c'est le nombre moyen de personnes qu'une personne infectée va infecter à son tour, si l'on suppose qu'elle n'est entourée que de personnes saines. C'est un paramètre important du modèle, parce qu'il nous renseigne sur la possibilité et la poursuite de l'épidémie. Par exemple, si R0 est inférieur à 1 pour une maladie, à ce moment-là, il n'y a pas d'épidémie possible. Il permet également de calculer le nombre de gens qui seront infectés une fois que l'épidémie est déclenchée et la vitesse de propagation, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Le R0 permet aussi de calculer la part de la population qui doit être résistante pour éviter le déclenchement d'une future épidémie. Cette part augmente quand l'inverse de R0 diminue. Oui, désolé, j'ai pas pu m'empêcher, une double négation dans cette chronique. Mais bref, surtout, le R0 évolue en fonction des mesures de protection décidées par les pouvoirs publics, d'où l'enjeu de suivre et de faire baisser ce R0, si possible, en dessous de 1.
D'accord. Et du coup, c'est combien le R0 du coronavirus?
Eh bien... Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, sa valeur dépend de beaucoup de paramètres, et en particulier, elle ne vaut que dans un modèle donné. J'ai décrit plus haut un modèle très très simple, ce modèle SIR, mais en pratique, il y a des modèles beaucoup plus complexes, avec plein de compartiments pour des situations de malades différents. Aujourd'hui, au moins 12 équipes ont déjà calculé ce R0, et trouvent des valeurs entre 1,5 et 6,7. La différence est énorme, mais en règle générale, les scientifiques s'accordent sur une valeur entre 2 et 4, variant selon les pays et les politiques de santé publique. Il faudrait donc, par exemple, entre 50% et 75% de personnes guéries ou vaccinées pour éviter une nouvelle épidémie. Mais cette incertitude sur ce paramètre n'empêche pas la modélisation d'être riche de plusieurs enseignements, et je voudrais en donner 3 ici. Le premier, c'est que l'on peut modéliser l'épidémie, puis comparer rétroactivement le modèle aux données officielles. Cela, ça nous permet, dans les pays comme la France, où peu de tests sont réalisés, d'estimer le nombre réel de personnes infectées. Une équipe de l'INRAE d'Avignon a ainsi montré qu'il y aurait sans doute 16 fois plus de personnes infectées que dans les chiffres officiels, ce qui finalement est assez rassurant, parce que ça fait décroître le taux de mortalité, qui serait, selon eux, de 5,2 pour 1000. Aussi et surtout, Modéliser l'épidémie permet d'anticiper la dynamique de cette épidémie et de simuler les conséquences de telle ou telle mesure de santé publique. C'est ce qu'ont fait les chercheurs de l'Imperial College, dont l'étude a été présentée à Emmanuel Macron peu avant le début du confinement. L'étude montre qu'en l'absence d'un tel confinement, le pic de malades en état grave dépasserait de plus de 10 fois le nombre de lits de réanimation disponibles, d'où la nécessité de mesures drastiques. Enfin, ces modèles nous rappellent une perspective hélas peu réjouissante. Le confinement va permettre de freiner et de diminuer l'épidémie, mais ne fait que décaler le pic dans le temps. Après la levée du confinement, un nouveau pic serait attendu par les modèles, vu que la seule façon d'arrêter durablement l'épidémie est que la plupart des gens atteignent le dernier compartiment. L'espoir est donc que le temps gagné permette de développer ou bien un remède pour que les gens passent dans ce dernier compartiment 1 vivant et 2 sans surcharger les hôpitaux, ou bien un vaccin pour que les gens passent directement dans ce dernier compartiment sans avoir à tomber malade.
Et c'est tout de suite beaucoup plus clair. Merci Rémi pour ce petit point scientifique. Il est 20h47 et on le sait, le coronavirus impacte tous les aspects différents de la société, dont le sport. On va voir ça tout de suite avec Victor.
Un entraîneur,
ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas faire de faute ! Pas faire de faute !
Alors, ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud !
Cible !
L'année dernière, on n'avait pas d'opium, hein, je te rappelle.
Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable.
Et la première grande nouvelle du monde sportif en ces temps troublés, c'est bien évidemment le report des Jeux Olympiques de Tokyo qui aurait dû avoir lieu du 24 juillet au 9 août, sous la pression de nombreux sportifs, puis de fédérations et enfin de nations entières comme le Canada ou l'Australie qui avaient menacé de ne pas envoyer d'athlètes. Le Comité international olympique, en accord avec le Japon, a accepté de reporter d'un an les Jeux Olympiques qui auront donc lieu à l'été 2021. Outre le coût que ce report occasionnera, pour l'instant estimé à 2,5 milliards d'euros, c'est surtout un vaste problème de calendrier sportif qui s'annonce. En effet, beaucoup de fédérations organisent leur championnat du monde sur les années impaires, comme c'est le cas de l'athlétisme et de la natation. Mais sauf que l'été, c'est aussi Wimbledon, le Tour de France, l'Euro et l'Euro de foot. Avancer les JO semble compromis à cause de ces autres compétitions, mais aussi des délais qu'auront les athlètes pour réaliser les minima. Et les reporter fin août, voire en septembre, exposeraient les JO aux problèmes de typhons qui ont déjà fortement impacté la Coupe du monde de rugby à l'automne dernier.
Mais de toute façon, à cause du confinement, la plupart des athlètes auraient eu du mal à se qualifier ou à faire des performances à leur niveau.
C'est surtout ça le problème, oui, parce qu'avec les capacités d'entraînement actuelles, n'importe quel Parisien s'improvisant marathonien depuis environ 10 jours aurait pu prétendre à une qualification. En plus du manque d'équité entre les différentes nations qui sont différemment confinées et limitées dans leurs pratiques sportives. Toutefois, la plupart des sportifs et des fédérations redoublent d'imagination pour maintenir un semblant d'activité et inciter les gens à ne pas se laisser aller. Entre ceux qui font de la perche pour monter sur leur balcon et celles qui font de la musculation avec un manche à balai et des vieux pneus, les réseaux sociaux sont pleins de vidéos plus créatives les unes que les autres.
Et donc j'imagine que le sport que tu as nous proposé est un sport facilement confinable, enfin j'espère.
Alors bien évidemment, et ça tombe finalement plutôt bien ce report des JO, car je vais pouvoir vous proposer des sports comme ça pendant encore un an. Et donc aujourd'hui, un peu à la manière de Lina qui rediffuse sur Facebook certains épisodes de Gym Tonic, nous allons découvrir le tir à la corde à linge. Alors cette épreuve se déroule bien évidemment avec minimum 2 personnes, mais pas de souci si vous êtes seul, vous pouvez vous placer face à votre miroir et lui faire part de vos plus belles grimaces. Sinon, munissez-vous d'un sol et d'une corde à linge, de préférence dépourvue de linge. Chacun se place d'un côté de la corde et tire pendant 3 secondes. Au bout des 3 secondes, la personne qui est le plus proche d'une casserole doit retirer un pied. On retire alors jusqu'à ce que cette personne chute, ce qui signe la fin du jeu. Donc, bien évidemment, il est interdit de pincer les doigts de son adversaire avec une pince à linge. Un conseil donc, si vous voulez gagner, privilégiez les sols souples ou bien faites disparaître les casseroles de chez vous.
Merci pour ce super conseil Victor, et si jamais vous vous ennuyez pendant le confinement, maintenant vous savez quoi faire. Il est 20h50, c'est pile l'heure de retrouver l'émission qui parle de radio avec Rémi et Onde Courte.
Onde Courte.
Début février se tenait à Brest le festival de la radio longueur d'onde dans une période marquée par des tensions sociales nationales et par un mouvement social sans précédent à Radio France. Autant dire que la radio y était plus que jamais peut-être politique, et ce n'est pas un hasard si ce festival s'est terminé le 9 février avec une assemblée générale à la suite de laquelle près de 160 artisans et artisanes radiophoniques et sonores, selon leurs propres termes, ont choisi de fonder un collectif, les Sons Fédérés, et de publier un manifeste.
Nous sommes là, nous existons, nous sommes à l'écoute du monde, nous sommes les artisans et les artisanes de la création sonore et radiophonique, du documentaire, de la fiction, nous amplifions l'écoute et la compréhension de ce monde. Nous sommes tout autant déterminés à en faire résonner les violences et les fragilités que les beautés et les solidarités.
Puis,
nous refusons l'industrialisation de nos métiers, de nos sons, de nos oreilles. Face à la standardisation de l'écoute qui en découle, nous affirmons et défendons une culture sonore protéiforme.
Et enfin,
la création et l'innovation sonore sont des services publics. Nous avons la ferme volonté de travailler avec d'autres à déterminer une politique culturelle de toutes les expressions sonores. Nous voulons une autre politique du son, de sa création, de sa diffusion, bref, de sa place dans la formation démocratique. Mais nous voulons aussi un autre son de la politique.
Parmi les signataires qui restent néanmoins anonymes, des membres de radios associatives comme Canu ou Fréquence Paris Pluriel, d'associations comme Ador, de web radio comme Faune, mais aussi de collectifs de création ou de formation audiovisuelle comme le Créadoc, et bien sûr des radios publiques de Radio France. On l'entend à ces quelques extraits, le projet est aussi enthousiasmant que le ton est grave. Dans ce contexte d'immense précarité de la création radiophonique artisanale face à l'explosion du podcast industriel et formaté à laquelle on assiste depuis 3 ou 4 ans. Au-delà de ce manifeste, le collectif entend aussi peser sur les politiques publiques et a rencontré le 3 mars dernier Nicole Foyuliedi et François Hurard, chargés d'une mission en vue de la création d'un fonds d'aide à la création et à l'innovation sonore par le ministère de la Culture. Deux mots d'ordre pour les Sons Fédérés, l'autonomie et la diversité. Un fonds de soutien doit permettre à la création de vivre librement plutôt que de la mettre sous tutelle, comme le rappelle le collectif dans le compte-rendu de son audition.
Le fonds de soutien idéal, d'abord qu'il se montre ambitieux. Ensuite, que le fléchage de l'argent aille bien et bel et bien aux créateurs et aux créatrices, auteurs-autrices et non aux diffuseurs. Bien entendu qu'ils promeuvent toutes les expressions sonores, protéiformes, dans et hors radio, et non des produits formatés. Enfin, que les auteurs et les autrices y soient décisionnaires. 75% des sièges à la commission de sélection.
Les craintes exprimées à plusieurs reprises sont d'une part que ce fonds, que le collectif propose d'ailleurs de financer par la taxe sur les GAFAM, finance les gros studios de production et soit inatteignable par les petites structures, et d'autre part, qu'il se fasse au détriment du financement des radios publiques et contribue à une ubérisation des artisans de la radio. Bref, que la création de ce fonds, demandée depuis de bien trop longues années, soit une occasion manquée de donner un peu d'air à un secteur qui repose essentiellement sur du travail précaire ou bénévole. On devrait connaître bientôt les conclusions des rapporteurs. Pour la suite, de nombreuses questions restent en suspens. Les Sons Fédérés, eux, n'entendent pas en rester là et annoncent leur constitution prochaine en une structure juridique de type mouvement ou syndicat. Et si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous plonger plus attentivement dans le manifeste, voire à vous inscrire sur leur liste mail. Les liens seront ajoutés sur la page de cette chronique.
Merci beaucoup Rémi pour ce point sur l'actualité de la radio, qui continue malgré tout. Et il est 20h55 sur Transistor, on a envie d'un peu de musique sur nos ondes, et pour cela on est avec Nathan et avec Marine, bonsoir à tous les deux.
Merci Mathilde, alors pour cette musicienne un petit peu spéciale, j'ai une nouvelle acolyte, Marine va m'accompagner et on va un peu changer la
forme. On se voyait mal vous parler des concerts à aller voir.
Donc, on s'est rabattu sur l'actualité musicale et on vous parle donc de ce qui s'est passé récemment dans la musique et de ce qui est bien passé dans nos oreilles. La musicienne, c'est parti.
Où je vais dire des trucs simples.
I need somebody. Hey,
alors, pour les news, J Electronica
Childish Gambino a sorti.
J Balvin, la star latine, a samplé Angela du Saiyan Super.
Mais surtout, triste nouvelle. On aurait aimé vous remonter le moral, mais il faut le dire, le jazz, la musique africaine et même que la musique tout court est en deuil.
Merci à Martin d'avoir passé un conseil l'écoute de la série d'émissions qu'Avoinu lui a dédiée. Et si le mélange jazz-musique africaine vous a conquis, nous vous conseillons, outre la discographie du saxophoniste, le récent projet du musicien Tony Allen, qui a sorti l'excellent fruit de sa session studio avec le défunt Hugues Masekela sous le nom de Rejoice vendredi dernier.
On passe sur les sorties ?
Oui, on commence avec du rock et une voix et doux que le chanteur Baxter Dury balade depuis.
Baxter Dury, fils Diane Dury.
Ah, c'est l'instant anecdote.
Oui, car Baxter Dury est le fils Diane Dury, lui le chanteur, se souvient surtout pour avoir inventé une célèbre maxime qu'on écoute maintenant.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need.
Sex, drug and rock and roll, dites-lui merci pour.
C'était l'instant anecdote, merci d'avoir passé sur Baxter Dury qui revient avec Delilah Holiday, rien à voir avec Johnny, et Étienne de Crécy, où le compositeur français l'a forcé à accélérer le tempo dans un album à la frontière des univers des deux artistes. Car Baxter Dury est plus habitué à des rythmes lents, donnés par une batterie assez, une basse lancinante et quelques accords de guitare qui interviennent de temps en temps. Surtout, à la manière d'un Serge Gainsbourg, il sait inviter les femmes sur ses morceaux pour donner une amplitude de voix qu'il n'a pas. Baxter Dury a gardé un reste de rythme de Crécy dans le premier morceau de son album, mais retourne surtout à ses fondamentaux dans un 10 titres qui s'écoute d'une traite.
On écoute tout de suite une de nos musiques préférées de l'album, c'est Scarlet's Got Boyfriend, extrait de The Night Chancer, sorti vendredi.
Carla's got a boyfriend. I might take care of him, to be honest.
Promises. I've made so many, been so wrong lately. Your eyes have left me lost all self.
Nul n'ignore qu'il y a deux semaines commençait notre confinement, et à son annonce, des pluies de recommandations de films ont sociaux. De Télérama à ton pote fan de films russes, chacun est allé de sa petite reco. Mais nous, à Transistor, on a mieux.
Amateurs de cinéma, d'opéra, de musique, de funk, de folie et de bonne musique, attention.
On vend peut-être un peu trop la chronique là quand même.
On fait comme on peut, écoute. Alors être à côté de ses références, s'en rendre compte, s'en servir et surtout s'en foutre peut donner l'un des ovnis les plus cools de 2019. Avec un opéra auditif dans le style des Neptunes, entre funk et rap, contant une histoire d'enquête digne d'un des pires nanars des années 80. Quelque part, le projet pourrait se suffire à lui-même. Mais l'écoute du Regard qui tue, premier album de Varnish La Piscine, est un passage obligatoire pour tout auditeur trouvant que ses artistes préférés tournent un peu en rond. Varnish propose de pousser le concept un peu plus loin en sortant un film et son OST le même jour l'année dernière. Globalement, le projet semble plus agréable à réaliser qu'à écouter. Cependant, les références sont maîtrisées, l'esthétique aussi toujours entre rap et funk, on peut s'empêcher de sourire comme un imbécile à cause de la bonne humeur qui se dégage tout le long de l'album comme du film.
Enfin, l'événement de vendredi dernier.
Après 5 albums qui l'emmenaient jusqu'au sommet et week-end à After Hours.
Un album qu'il teasait depuis quelques mois sans le dire, avec des clips publiés sans crier gare, dont l'excellent Blinding Light et de très bon Earthless.
Deux morceaux où l'on pouvait voir un deux week-ends transformé en personnage de meurtrier en costume rouge au milieu de la ville la plus folle des États-Unis, Las Vegas. un décor des films des années 80-90.
Mais avant ça, The Weeknd s'est fait connaître mélodique et langoureuse sur des instrumentales froides, signe distinctif de Toronto, sa ville du Nord, est sûrement héritée de son passage chez OVO.
Oui, car il faut préciser que si The Weeknd est une star pop à part entière aujourd'hui, il fut un artiste de la nébuleuse OVO, le label de Drake. C'est avec ce dernier que beaucoup l'ont découvert, sur l'un des meilleurs albums rap des années 2010, Take Care, dont on écoute un extrait avec Crew.
Taking notes of my keyboard, what you bothering me for? There's a room full of niggas, what you following me for? This ain't a fucking sing-along. So girl, what you singing for?
Je vois la neige tomber sur Toronto.
Moi, je vois surtout les graines de la future star.
Des graines qui ont eu le temps de germer près d'une année sur son dernier projet en date, mais en graines dont s'éloigne After Hours.
Oui, alors, s'il est toujours question des mêmes thèmes, à savoir l'amour raconté par un personnage qui oscille entre froideur presque robotique et une mélancolie déchirante face à la jante féminine, si le personnage ne change pas et peut commencer à lasser les auditeurs les plus l'emballage, l'habillement du propos est d'un autre type.
Oui, même si le chanteur canadien a gardé sa recette classique pour nous assurer d'avoir ce moment on a commencé à l'écouter dans l'album, il rajoute quelques touches synthé qui semblent hériter de ses collabs passés avec les Daft Punk, mais surtout il emmène sa mélancolie sur des instrumentaux beaucoup plus chauds, avec des rythmiques très 80 et des saxos qui s'enflamment, comme dans In Your Eyes, notre morceau préféré qu'on écoute maintenant.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you, oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try.
Merci beaucoup pour cette chronique musicienne à demain. C'était super d'entendre un peu de musique. Et tout de suite, il est 21h03, il est l'heure d'écouter Judith et sa chronique culturelle qui va nous parler des Gaulois. Ce soir, je voudrais faire un hommage en toute simplicité à nos contemporains, les Gaulois. Pas d'historique, pas d'analyse, pas de controverse entre des écoles d'interprétation, Astérix est à tout le monde. Pas de parallèle vaseux entre le mythe du village gaulois sur lequel plane l'esprit de Vercingétorix et la situation actuelle. Je ne pense pas que les Gaulois soient confinés sous la surveillance et la menace des communs en garnison alentour. D'ailleurs, tout cela me fatigue. Je voulais juste prendre 5 minutes ce soir pour tous ceux qui aiment Astérix et qui s'y sentent liés par des souvenirs personnels. Souvenirs de greniers remplis de BD dans la maison des grands-parents, de soirées à lire avec son papa, à découvrir un humour et un sourire qui ne vous quittent jamais, des répliques, du comique. Un burlesque, jamais vulgaire, la culture au service de la farce, bref, des souvenirs de lecture jubilatoire qu'on peut revivre de temps à autre avec tendresse. Mais Astérix, c'est pas mal de symboles, non ? La résistance à l'envahisseur, une certaine idée de la France, tout ça ?
Oui, ça c'est si on veut, si ça vous amuse, mais honnêtement, c'est secondaire. Astérix, héros résistant, emblème et dernier bastion d'un esprit authentique et fidèle à soi face à l'impérialisme des Romains. Astérix, le rustique, l'esprit paysan face aux bourgeois de la ville que sont les Lutétiens. Oui, pourquoi pas ? Il y a nécessairement une certaine dose de nostalgie pour une Bretagne chérie liée à l'enfant. Et cela transparaît dans la candeur et la franchise du l'absence totale de cynisme et l'amour évident que les auteurs portent à leurs personnages. Mais au-delà de cette nostalgie, c'est aussi du présent qu'il s'agit. Astérix nous parle de nous avec acuité, et chacun aime s'y voir caricaturé.
C'est vrai qu'on s'y reconnaît, mais sans s'y enfermer. Astérix plaît beaucoup à l'international.
Exactement. Et c'est pourquoi j'aime à penser qu'Astérix modèle d'indépendance, une indépendance totale qui n'est cependant pas un repli sur soi. Les Gaulois vivent et voyagent, leur village est comme un en-soi qui résiste sans rien demander à personne. Astérix n'est pas une victime. Les Romains ne sont pas des ennemis, mais des voisins. Tout fous qu'ils soient, on est bien content de tomber sur eux dans la forêt, ça fait de la distraction. D'ailleurs, d'aucuns pourraient objecter que c'est précisément la menace permanente qui fait exister la proverbiale camaraderie au sein du village. C'est d'ailleurs la prémisse de l'album La Zizanie, dans lequel les Romains décident de devenir des associés pour ensuite observer leur microcosme se décomposer en un archipel d'auto-entrepreneurs. Et oui, les Gaulois, eux aussi, ont des penchants et des défauts par lesquels ils sont manipulables. Mais comme toujours, leur amitié reprend le dessus et tout rentre dans l'air, en passant par la case bancaire.
C'est vrai que c'est un peu le moment qu'on attend tous, le retour de la même image, à la fin, à quelque chose de réconfortant.
Oui, comme dans les romans, ce retour à la stabilité, ça s'appelle l'homéostasie. Et c'est ce qui peut faire du genre romanesque quelque chose d'extrêmement conservateur. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi je vous raconte tout ça. En vertu de son indépendance, Astérix est précisément imperméable à tout ce que je fais là. Analyse, glosse cagneuse, décortiquage et ratiocination. D'ailleurs, chacun peut le tirer où il veut. Icône de la résistance contre l'envahisseur, mais lequel ? Héros de la liberté, il pourrait tout aussi bien incarner l'emblème d'une minorité qui se vit comme menacée par un grand remplacement, ou encore comme une minorité identitaire, je sais pas moi, les moustachus par exemple, en butte aux injonctions oppressives d'une société uniformisante. L'indépendance dont je vous parle, moi, est au-delà de ça. La jovialité d'Astérix l'immunise contre toute récupération politique, idéologique, psychanalytique. N'oubliez pas qu'il est irréductible. Astérix, c'est juste le projet de deux copains qui voulaient rigoler. Et ça a pas mal marché.
C'était le journal radiophonique amplifié en direct avec les moyens du bord et malgré la pandémie. Ce soir, depuis leurs maisons respectives, il y avait Martin Touzeau, Marie Douniac, Nicolas Sendé, Arthur Kramer, Matteo Moglia, Clément Lui, Rémi Cerda, Victor Andrade, Nathan Viera et Judith Kravitch. À la régie un peu adaptée, c'était Rémi Cerda et aussi un peu tout le monde. Vous retrouverez toute votre actu amplifiée dans 15 jours. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos postes de radio.
Allez, 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 allez